Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de CSMs & Co. Ce nouvel épisode Focus, le deuxième épisode Focus. Focus, ce sont ces épisodes plus courts, plus condensés, sans invité, où je vous partage des choses que j'ai appris de mes invités précédents, que je résume un petit peu de mon expérience, de discussions que j'ai pu avoir avec des CSM ou autres, et sur lesquelles j'aborde des sujets vraiment spécifique, dédié. Et pour ce deuxième épisode, je voulais parler d'un sujet qui me passionne particulièrement et qui est au cœur du métier de CSM, qui est celui de la productivité, de la priorisation du temps. C'est un sujet sur lequel j'ai écouté beaucoup de choses, lu beaucoup de choses, que je trouve hyper intéressant. Et c'est vraiment au cœur du métier de CSM. Le CSM, il est au cœur du réacteur. Il a plein d'interlocuteurs, que ce soit en interne ou en externe. Et donc, on a souvent cette question, comment je fais pour prioriser? Comment on évite de courir partout? C'est un sujet qu'on a déjà un petit peu abordé dans l'épisode focus précédent sur le proactif versus réactif. Comment au final on évite le burn-out en réussissant à prendre les bonnes actions au bon moment et à surtout faire ce qui est important. Et dans cet épisode, je voulais vous partager 10 bonnes pratiques, 10 choses que je fais, 10 conseils, 10 petites choses que j'ai personnellement expérimentées qui permettent de gagner en productivité et de mieux prioriser votre temps de la meilleure des façons. Donc 10 conseils aujourd'hui dans cet épisode Focus. Le premier conseil, ça va être de faire un audit, de regarder où vous en êtes. Il y a plusieurs techniques qui existent. Moi, ma préférée, c'est celle du retour dans le temps. On va prendre son agenda, ses activités de la semaine passée, et l'idée, ça va être de catégoriser un petit peu pour voir sur quoi on passe le plus de temps. Interne versus externe, présentation versus email, est-ce que c'est de répondre à des questions, faire des bilans proactifs. Essayez de catégoriser des grandes familles comme ça de toutes les actions que vous prenez pour voir où est-ce que vous passez du temps. Plus, le petit bonus, c'est d'ajouter un niveau de satisfaction sur les activités, sur les personnes, sur les engagements que vous avez, pour voir un petit peu ce qui vous apporte de la satisfaction parmi tout ce que vous avez à faire. Et à partir de là, quand vous avez fait ce bilan, d'une semaine, d'un mois par exemple, souvent en regardant le calendrier ça suffit, vous avez une meilleure visibilité sur là où vous passez du temps, là où vous aimeriez passer plus de temps, ce qui vous prend du temps et vous ne l'êtes pas, ce qui vous éclate ou ce qui vous ennuie, et ça va vous aider à préparer votre semaine par la suite avec plus, d'intentionnalité. Donc premier conseil, faites un audit régulièrement de là où vous passez du temps. Le deuxième conseil, ça va être de vous fixer des objectifs annuels, trimestriels, hebdo, quotidiens, pour vraiment fixer des directions, des grandes directions, avec les objectifs annuels ou trimestriels, mais aussi des objectifs plus court terme sur la semaine ou au quotidien. Perso, tous les soirs, j'écris mes objectifs pro et perso pour le lendemain. J'en ai toujours 3 que je retrouve tous les jours qui sont les mêmes, qui ont pour objectif de me rapprocher de mes objectifs principaux de l'année, mes Big Rocks, et qui vont travailler plus mon identité. Les 3, ça va être santé, est-ce que j'ai fait du sport, est-ce que j'ai fait quelque chose de bon pour la santé, la méditation ou autre. Learning, est-ce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui? Si oui, quoi, comment je l'ai appris? Et enfin, de l'écriture, est-ce que j'ai écrit quelque chose aujourd'hui? Et ensuite, en plus de ces 3 objectifs que je retrouve tout le temps, je vais en avoir 3 ou 4, rarement plus, jamais moins, qui sont des plus petits objectifs liés à des enjeux plus court terme, comme un épisode de podcast, une présentation client, un rendez-vous à préparer, etc. Et chaque soir, je fais le bilan de la journée, je marque ce que j'ai fait ou pas fait dans cette liste, j'ajoute ce que j'aurais pu faire en plus, ça m'arrive, et j'écris les objectifs de la semaine, de la journée suivante. Je fais la même chose à la semaine aussi, chaque dimanche soir, je vais faire exactement la même chose. La semaine qui vient de s'écouler, qu'est-ce que j'ai fait, pas fait de mes objectifs, et ça me permet d'avoir une vue un petit peu plus large en préparant la semaine suivante. Et l'idée, toujours quand on se fixe des objectifs, c'est tout d'abord de les faire sur le modèle SMART, donc spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel, donc d'avoir ces cinq critères. Et la deuxième chose, c'est bien sûr de vous dire que ce n'est pas grave si vous loupez un des objectifs que vous vous étiez fixé sur la journée. Ça arrive, il y a des urgences, il y a autre chose. Donc ne pas s'en vouloir, ne pas se dire « mince, je me suis fixé trop d'objectifs, j'ai pas réussi ». Vous le prenez et vous le décalez peut-être au lendemain, ou alors si finalement c'est plus d'actualité, vous le supprimez, mais on ne s'arrête pas dessus en se disant « mince, j'ai tout loupé », etc. La troisième bonne pratique que je voulais vous partager, c'est de faire to-do list efficace. Ça peut paraître simple, une liste de choses à faire, une to-do, mais souvent on met un peu tout dedans, notamment des éléments qui relèvent plus des objectifs long terme. On fait cohabiter dans la même liste quelque chose comme courir un marathon avec envoyer un email client, etc. etc. L'idée, ça va être de vraiment de n'y inscrire que des tâches très claires et plutôt court terme sur cette to-do list et d'avoir à côté, ça c'est la petite reco, moi qu'est-ce que j'ai commencé à faire et je trouve ça cool, d'avoir une liste de maybe do, des choses que je ferai peut-être un jour si j'ai le temps, donc des choses un peu plus long terme aussi. On se projette un peu plus vers des objectifs, mais des choses que, voilà, comme ça au moins je ne les oublie pas. Un undo list, en fait, ce sont toutes les choses que je ne vais pas faire finalement, et c'est bien d'avoir aussi une liste de toutes les choses qu'on a décidé d'exclure, de ne pas faire, et une redo list, les choses que l'on peut décaler, les choses qu'on avait prévu de faire, qu'on n'a pas fait, ou alors qu'on va refaire parce que c'est des choses qui sont bien passées. Donc d'avoir plusieurs listes comme ça, ça permet de libérer un peu de la place dans la to-do, d'en faire quelque chose du coup de plus court, de plus efficace et de plus utilisable, de plus actionnable. Donc faites des to-do efficaces, ça c'était la troisième. La quatrième, ça va être de prioriser vos actions. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo où on a un prof qui montre à ses élèves comment il faut, voilà, commencer par les grosses pierres, puis ensuite les moyennes, puis le sable, puis de l'eau, et que comme ça, tout rentre dans le bocal. Et en fait, il fait l'exercice en leur montrant que si on commence par mettre de l'eau, ensuite du sable, les petites pierres et les grosses pierres, et bien au final, quand on arrive aux grosses pierres, on n'a pas la place pour les mettre, ça déborde. Et en fait, votre emploi du temps, c'est pareil, c'est ce bocal. Mal géré, eh ben, il déborde. Il y a deux techniques dont vous avez sûrement entendu parler, moi que j'aime beaucoup, pour justement prioriser son temps. Il y a le premier, la matrice d'Eisenhower, c'est un classique du nom de cet ancien président américain qui disait « ce qui est important est rarement urgent et ce qui est urgent est rarement important ». L'idée, c'est de classer vos tâches sur deux niveaux, urgence d'un côté et importance de l'autre. Et ensuite, une fois que vous avez placé votre tâche, vous allez avoir des choses qui sont urgentes et importantes. Ça, ben, vous n'avez pas le choix, il faut le faire tout de suite. Vous avez des choses qui vont être urgentes mais pas importantes, et là l'idée c'est d'essayer de déléguer. Des choses qui sont importantes mais pas urgentes, là vous avez le temps de planifier. Et enfin, si ce n'est ni urgent ni important, eh ben, vous supprimez tout simplement. Le plus dur avec cette matrice, c'est de positionner vos tâches sur ces deux niveaux, de le trouver au bon endroit, mais en tout cas c'est une bonne façon de commencer. L'autre technique que j'aime beaucoup aussi, c'est de s'inspirer de la loi de Pareto. Tout simplement, le fameux 80-20%. 80% de vos revenus viennent de 20% des clients, 80% de vos tickets aussi, 20% de vos actions vous permettent d'atteindre 80% de vos objectifs. Donc l'idée, c'est de détecter justement ces tâches, ces actions qui sont si importantes et de se focusser dessus. Vous allez les prioriser pour optimiser votre temps et l'utiliser de la façon la plus efficace. Le cinquième conseil, ça va être de diviser vos tâches. Parfois, vous avez quelque chose à faire pour un client, pour un interne, ça va vous paraître être une montagne. Ça peut être un projet à lancer, un QBR à préparer, un webinar à préparer. L'idée, ça va être de découper ça en plein de petites tâches qui vont vous aider à démarrer, à avancer et à délivrer le résultat final plus facilement et avec moins de stress. Et surtout, ça va vous permettre de planifier les choses, de vous projeter vers la réalisation de votre objectif plus facilement. Typiquement, l'exemple que je prends souvent quand j'explique ça, c'est quand j'ai lancé ce podcast. On pourrait se dire, voilà, lancer un podcast, gros objectif, c'est une grosse boule énorme et on se demande comment on va la déplacer. Et en fait, après, bah, on se dit qu'il y a plein de choses à faire. Il faut d'abord définir le sujet du podcast, trouver des infos, des bonnes pratiques sur le podcasting, quelle plateforme on utilise, etc. Quel matériel. Ensuite, il faut chercher des invités, proposer aux invités, commencer à écrire les épisodes, etc. etc. Et en fait, il y a plein de petites étapes entre l'idée du podcast et le lancement du podcast qu'on peut découper et qui permettent d'avancer. Du coup, moi, j'avais fait une timeline entre juin et septembre 2021 à l'époque, 2020 même si je ne me trompe pas, excusez-moi, pour lancer le podcast de la meilleure des façons. Donc vraiment, découper, se dire qu'une échelle, quand il y a plein de petits barreaux, c'est plus facile de monter que si on se demande, on a envie de faire des grands barreaux d'un coup, ça peut paraître plus compliqué. Donc quand vous avez un gros projet, une grosse boule comme ça, découpez-la et ensuite éparpillez dans le temps toutes ces petites actions que vous aurez définies. La sixième bonne pratique, ça va être celle du time boxing. Une fois que vous savez ce qui est prioritaire, que vous avez des objectifs, des to-do qui sont clairs, que vous savez aussi où vous prenez du plaisir ou pas dans votre job, il va falloir sanctuariser ça dans votre agenda. Le time boxing, c'est cette idée de planifier des plages de temps dans votre agenda pour certaines actions clés. préparer un meeting, faire des rapports, entrer des infos dans le CRM, traiter ses emails, etc. Mettez des blocs dans votre agenda, soit pour des sujets spécifiques, certaines semaines, vous savez que vous avez un gros meeting à préparer ou autre, soit des blocs récurrents. Par exemple, moi, tous les lundis après-midi, je suis en mode réflexion sur la semaine écoulée, sur les actions que mes clients ont faites, je suis vraiment en pleine analyse et j'ai un bloc pour m'assurer de conserver la main sur ce moment qui est essentiel pour le déroulé de la semaine. Vraiment du temps que je vais investir et ce bloc-là, il ne bouge pas. Idem sur le vendredi après-midi, là, j'ai un bloc récurrent qui est un peu moins fun, qui est celui du, vous savez, quand on met à jour le CRM, des choses comme ça, des notes qu'on rentre, etc. Donc, c'est vraiment pas hyper fun, mais il faut le faire, des trainings, des choses comme ça, et ça c'est mon bloc plutôt administratif le vendredi après-midi. Et vraiment organiser ces blocs en fonction des moments de la journée où vous avez plus ou moins d'énergie. Si vous êtes plutôt du matin, vous allez mettre des gros blocs dans la matinée pour avancer à fond sur les projets importants, ceux qui requièrent de la créativité, de l'énergie, etc. Si vous êtes plutôt du soir, vous allez mettre plutôt vos calls, vos gestions d'email le matin par exemple. L'idée c'est de trouver ce qui fonctionne pour vous et de bloquer les moments qui sont les mieux pour vous dans la façon dont vous travaillez. On continue, on arrive à la septième bonne pratique qui est sûrement une des plus puissantes et des plus compliquées, c'est d'apprendre à dire non. C'est quelque chose, je pense que vous l'avez vécu, je le vis moi beaucoup personnellement aussi, c'est que on a tendance à dire oui, on nous propose un nouveau projet, un nouveau client, une nouvelle opportunité, on saute dessus. Pourquoi on dit oui? On a peur de vexer dans un premier temps, on a peur de louper une opportunité. Ou alors, on n'a pas une bonne connaissance de nos objectifs. On revient au début de ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, on accepte des choses qui ne nous permettent pas d'aller vers nos objectifs. Il faut se dire qu'un non qui est clair et justifié, il va être souvent une plus grande marque de respect qu'un oui que vous n'allez pas pouvoir délivrer. Donc, il faut apprendre à dire non. Pour dire non, il y a plusieurs choses. Alors, on peut bien entendu dire non, expliquer pourquoi, dire qu'on n'a pas le temps, etc. Ce qui va aussi permettre de dire non de manière un petit peu plus facile, on va dire, c'est de challenger la requête. On vous demande quelque chose, on peut challenger le périmètre. Est-ce que tu as vraiment besoin de toutes ces infos-là ou est-ce que si je te délivre celle-là en priorité, ça va? Quelle échéance aussi? Quelqu'un va nous dire j'ai besoin de ça le plus vite possible. Ok, le plus vite possible c'est quoi? C'est dans l'heure? C'est demain? C'est dans la semaine? Se mettre d'accord et si on peut faire traîner un petit peu, peut-être on peut dire plus facilement oui. Est-ce que c'est vraiment ma responsabilité? Est-ce qu'on peut mettre la balle dans le camp du demandeur? Ok, merci, je veux bien faire ta demande, mais il faut que tu me fasses quelque chose, un brief hyper clair pour que je puisse aller vite. Donc vraiment, on peut dire non tout en disant oui, en challengeant la requête au maximum. C'est une bonne façon de remettre vraiment la balle dans le camp de la personne qui vous fait la requête pour qu'il sache pourquoi il vous l'a fait et qu'il vous donne tous les éléments pour que vous puissiez avancer correctement. Et bien entendu, oui, apprendre à dire non, ne pas se jeter sur toutes les opportunités. Moi-même, je l'ai fait plein de fois à mes dépens, mais il vaut mieux parfois dire non quand c'est un sujet qui ne nous intéresse pas, qui ne nous concerne pas, où on sait qu'on ne sera pas la meilleure personne, pour dire oui à d'autres opportunités derrière. Donc voilà, apprendre à dire non, c'est aussi gagner du temps en reprenant un peu le contrôle sur votre agenda. Ma huitième bonne pratique, ça va être de trouver des moyens pour éviter les interruptions. Il y a plein d'interruptions. Alors, quand vous soyez au bureau ou chez vous, il y a plein de choses qui vont vous interrompre. Des personnes, donc il faut trouver un moyen de signaler que on ne doit pas être dérangé. Porter des écouteurs, un casque, c'est des choses qui marchent bien. Aller dans une salle, s'isoler. Il y a les emails. La conseil, c'est d'essayer de vérifier les emails seulement 3 fois par jour, d'utiliser la fonctionnalité « envoyer plus tard », d'appeler. Si vous commencez à écrire un email qui est trop long, appelez, comme ça au moins vous savez que ça va plus vite. Et vraiment, sur les emails, il y a pas mal de choses à faire. Sur les notifications, je sais que quand j'ai commencé à couper toutes les notifications sur le mobile, à fermer Teams, fermer les emails quand je suis sur des tâches spécifiques, ces blocs dont je vous parlais tout à l'heure, ça va beaucoup plus vite. Donc, si on peut supprimer ces notifications pour éviter d'être dérangé, puisque une notification qui vous dérange, ça vous prend peut-être 1 ou 2 secondes pour voir cette notification, mais après ça va vous prendre plusieurs minutes pour revenir dans la tâche que vous étiez en train de faire. Et le dernier point sur lequel vous pouvez gagner du temps en essayant d'éviter les interruptions, ce sont les réunions. Essayez de proposer des créneaux plus courts, d'envoyer un pre-read, une lecture avant et un agenda de la réunion, et d'essayer de libérer les gens avant la fin autant que possible ou de partir avant la fin si vous le pouvez, si ce n'est pas vous qui organisez la réunion. Donc ça, c'est vraiment les interruptions qu'on peut avoir, qu'il faut limiter au maximum, les gens, les emails, les notifs et les réunions. Numéro 9, et c'est peut-être par là qu'on aurait dû commencer d'ailleurs, c'est aidez-vous de la tech, de la technologie pour pouvoir gagner du temps. Sur les 3D mail, sur les signatures automatiques, les text expanders, vous tapez trois mots, ça vous écrit un email entier, les raccourcis, clavier, souris, etc. Des réponses génériques, automatiques, les remplissages des formulaires, lire en accéléré les vidéos, ça permet de gagner un temps fou si vous avez beaucoup de vidéos à faire, automatiser la prise de rendez-vous, mettez des choses dans les favoris, etc. Et bien entendu, ChatGPT, enfin l'intelligence artificielle, les résumés de réunions, des choses comme ça, il y a un max de temps à gagner avec les bons outils, le bon paramétrage dans sa boîte mail. C'est le plus simple, ça va très vite. Et ensuite, ben, je ne sais pas si vous passez du temps à lire des documents, etc. Faites les résumés par une intelligence artificielle. Vous allez gagner du temps, ne pas avoir à regarder des vidéos, des choses comme ça. Et enfin, la dernière bonne pratique que je voulais vous partager pour gagner du temps en tant que CSM, c'est sur les tâches, les actions que vous devez faire, de faire deux choses, de distinguer les tâches actives et les tâches passives, et ensuite d'essayer de faire des batchs d'actions. Alors l'exemple que je prends souvent là-dessus, ça va être les pâtes. Typiquement, si vous préparez des pâtes à la carbonara, on va se dire qu'il y a 10 minutes de cuisson des pâtes et 10 minutes de préparation de la sauce. Et bien pourtant, ça ne va pas vous prendre 20 minutes à faire, parce que vous allez lancer la cuisson des pâtes. Et pendant la cuisson des pâtes, qui est une tâche passive, il n'y a pas besoin de vous, et bien vous allez préparer votre sauce. L'idée, ça va être exactement la même chose. Essayez de lancer toutes les actions sur lesquelles vous n'êtes pas indispensable pour avancer sur celles où vous êtes indispensable. Lancer des rapports, par exemple. Vous allez lancer la donnée, vous allez lancer le truc, et ça roule. Briefer un partenaire, briefer quelqu'un avec qui vous travaillez. La personne n'a pas besoin que vous soyez avec elle pour travailler, pas besoin d'attendre que vous ayez fini la présentation pour briefer quelqu'un pour qu'il rajoute ses slides. Vous pouvez le faire en même temps. Donc ça va vraiment vous aider à gagner du temps. Et l'autre chose, en complément de ça, si vous pouvez lancer plein de tâches d'un coup, c'est encore mieux. Comme quand vous cuisinez pour la semaine, hein, parler des pâtes tout à l'heure, c'est la même chose. Vous allez lancer tous les rapports, toutes les demandes ou tout ce que vous pouvez faire en même temps. Par exemple, ça va être d'identifier des tâches similaires, que ce soit des communications, de la rédaction, de la planification, de créer un bloc temps qui va être dédié à la réalisation de tout ça à la fois. Et ensuite, vous allez pouvoir comme ça aller très vite. Parfois, c'est juste une ligne, je sais pas, un nom de client, par exemple, à changer dans une présentation, des choses comme ça. Donc, l'idée, ça va être de faire ça en série, de scaler un bloc temps dont on parlait tout à l'heure pour faire ça. Donc, voilà un peu les 10 bonnes pratiques que je voulais vous partager pour gagner en productivité. Si on les résume, premièrement, faire un audit, sachez d'où vous partez. Fixez-vous des objectifs annuels, trimestriels, hebdo et quotidiens et regardez-les régulièrement. Faites des to-do efficaces en rajoutant des maybe do, undo, redo. Priorisez vos actions avec la matrice d'Eisenhower et la loi de Pareto. Divisez vos tâches pour que ce soit plus facile à accomplir. Faites du time boxing pour vous garder des zones qui soient optimales pour travailler. Apprenez à dire non de la bonne façon. Évitez les interruptions, que ce soit des gens, des emails, des notifications ou des réunions. Aidez-vous de la technologie pour gagner du temps. Et enfin, essayez de retrouver quelles sont les tâches actives et les tâches passives et faites-les en batch, en série. Pour terminer, je vous dirais, ne cherchez pas la perfection ni tout changer d'un coup. Acceptez qu'il y a des jours sans, des jours où vous n'avez pas le temps de tout gérer, vous allez louper des objectifs. Il y a des urgences que vous allez devoir ajouter dans votre calendrier qui vont peut-être bousculer les choses. Mais l'idée, c'est de ne pas laisser ces petits moments vous définir et de repartir d'attaque le lendemain. Pour terminer, je voulais mentionner cette idée du marginal gain. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Sir Dave Brailsford, je ne sais pas si je le prononce bien, qui était le directeur de la performance de l'équipe britannique et de l'équipe Sky de vélo. Et en fait, avant qu'il arrive, ils avaient des très mauvaises performances. Et quand il est arrivé, il a mis en place cette idée de marginal gain, qui est de trouver toutes les petites zones où on peut gagner une seconde, deux secondes, et de tout mettre en place pour gagner petit à petit, grappiller du temps comme ça. Et ça va être des choses très bêtes, par exemple. Ben, au lieu de, quand on dort à l'hôtel sur un Tour de France, par exemple, eh bien, il ramenait les matelas pour chaque coureur. Chacun avait son matelas, il changeait tous les matelas. Et ça permettait de mieux dormir et de gagner peut-être une, deux, trois secondes. Il a fait ça partout. Il a enlevé un gramme ici, un gramme là. Et c'est vraiment cette idée de... On fait des petits ajustements au fur et à mesure pour gagner en efficacité, pour gagner en productivité et d'être un meilleur cycliste ou un meilleur CSM, ça marche aussi. Voilà ce que je voulais vous partager dans cet épisode Focus, ce deuxième épisode. N'hésitez pas à me faire vos retours, vos commentaires, à me proposer d'autres sujets que vous voudriez qu'on aborde dans ces épisodes. Et je vous dis à la semaine prochaine avec un épisode avec un invité. Cette fois-ci, on va parler de Customer Education. Et je vous dis à très vite Merci beaucoup.